Des espaces infinis. Des espaces impossibles, inconcevables. Des espaces d'où transpire de chaque surface une présence invisible. Récemment, Backrooms est devenu la nouvelle itération de cette idée qui fascine les artistes depuis une éternité. Ces espaces qui créent à la fois l'angoisse et l'émerveillement, qui sont à la fois terriblement autres et absurdement familiers. Piranèse, Escher, de Chirico, La Maison des Feuilles, l'expérience cauchemardesque de Tonton Bernard en entreprise, tout ça, ça a bien sûr abreuvé l'univers des Backrooms. Mais bien avant que Kane Parsons ne plonge dans l'enfer jaune, beaucoup d'autres films se sont perdus eux-mêmes dans l'abysse. Et notamment certains courts-métrages incroyables, qui sont en quelque sorte les ancêtres de ces couloirs dans lesquels on aime tellement nos clippés. Mais ces courts-métrages, je vais vous en recommander trois aujourd'hui, parce que dans tous les cas, on parle pas assez des courts-métrages, alors qu'ils sont parmi les œuvres les plus imaginatives et libres qui soient. Les courts-métrages, c'est bien regarder des courts-métrages. Et en plus, les trois que je vais vous recommander aujourd'hui, on peut les trouver sur YouTube. Je ne vous ai rien dit. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Caféine. Vous le savez peut-être, je suis en Australie l'essentiel du temps, et mine de rien, il y a des publications françaises qui me manquent. Voilà, qui sont bien sûr introuvables ici. Et pas que françaises d'ailleurs, chaque fois que je suis en déplacement par exemple, chaque fois que je passe dans un relais, je cherche un numéro de Prog Magazine, c'est-à-dire un magazine dédié au rock progressif. Impossible. Juste impossible, c'est devenu un running gag. Et bah figurez-vous que j'ai trouvé l'application parfaite pour régler mon souci. Caféine, j'enregistre l'écran. Caféine, c'est une application qui vous donne un accès illimité à plus de 2500 magazines et journaux, toujours confondus, internationalement et français aussi. C'est beaucoup, et en un seul abonnement, tout ça, bah, c'est dans votre poche. Bah déjà, bah, voilà, Prog Magazine, je l'ai mis dans mes favoris. Boum, il y a un catalogue, région, économie, sport, voilà, toujours confondu, people, j'ai même des jeux, vous pouvez sudoker. L'application s'adapte à vos habitudes, et du coup, où que vous soyez à travers le monde, bureau, plage, igloo, Sirius B, bah vous avez un accès illimité à toutes vos publications préférées, que ce soit sur tablette, téléphone ou liseuse, et moi par exemple. Et bah j'ai finalement accès à Prog Magazine, j'aurais pu le chercher à travers un relais. Bon, ça ferait plaisir quand même d'avoir l'objet quand je l'aurai, mais voilà, Prog Magazine, accessible, boum, cette édition est disponible en PDF, je clique, et boum, c'est parti, voilà, choum choum choum. À moi, les vieux nerds qui jouent des morceaux de 18 minutes. Pas de réseau, ça fonctionne quand même. Moment de creux, vous trouvez tout ce que vous voulez, depuis le lifestyle jusqu'à la détente en passant par l'info pure et dure, voilà. Et toujours pas de palpitations. Et si vous vous abonnez maintenant via le lien que je vous mets dans la description, bah vous aurez 2 mois gratuits. Merci à Caféine de sponsoriser cette vidéo, et quant à moi, je vous souhaite un très bon épisode. Quest, réalisé par Saul et Ellen Bass en 1983. Alors, Quest, c'est un film qui est écrit par Ray Bradbury, oui, l'auteur de science-fiction, pas un homonyme chelou, un film qu'il a adapté d'une de ses propres nouvelles. Et Quest, ça se déroule dans un univers où les humains, qui sont réfugiés dans des sortes de ruines ancestrales, vivent 8 jours, pas un instant de plus. Donc chacun a une croissance accélérée. À 3 jours, tu peux boire légalement. À 7 jours, t'es un seigneur. Vous voyez l'idée. Et le récit commence avec la naissance d'un enfant qui est envoyé en mission. Une mission vers... on sait pas trop quoi. Trouver des réponses, trouver un sens à ces existences tellement courtes, et éventuellement les rallonger. Bref, il va falloir crapahuter, affronter les dangers, lever un sourcil face au mystère, et tout ça, le faire vite. Le faire très, très vite. Littéralement, la quête d'une vie. Quest, c'est beau, c'est très, très beau. C'est mon feedback. L'imagerie cosmique colle le tournis, le travail sur les matte paintings et aux petits oignons, la photo tout en clair-obscur me fait ronronner. C'est beau, c'est juste beau. Très rapidement, on découvre un univers dont on ne sait pas s'il est situé dans le futur ou un passé lointain. Un univers de lieux laissés à l'abandon, qui ont abrité la vie à un moment perdu dans le temps. Un univers bourré de statues écroulées, de vestiges. Inconnu, mais étrangement familier. Bref, exactement le type d'esthétique qui sera, bien des années plus tard, intégré à des genres comme, comme la Vaporwave, par exemple. Vous savez, tout ce gigantisme désuet. Et des têtes de statues. Des têtes de statues partout. Et je vous ai dit que je trouve ça beau. C'est parce que c'est réalisé par Saul et Elaine Bass. Bon, Solbass, vous avez déjà vu son travail, même si vous n'en avez pas conscience. Il a signé les affiches et les génériques de films absolument mythiques, et il a réalisé un seul long métrage en 1974, Phase 4. Les amateurs de SF, foncez, ce film est fou. Mais matez-moi ce plan, bon Dieu. La couverture de mon premier bouquin, pour la petite histoire, bah, c'est un hommage à Solbass. Voilà. 2018. On va tous mourir. Et donc, Sol a réalisé Quest avec son épouse Elaine, qui a d'ailleurs aussi co-signé la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que là où la nouvelle d'origine de Bradbury était assez concrète, dans tout son côté SF, le film choisit quant à lui d'être beaucoup plus abstrait. Dans Quest, on n'a pas d'explication prémâchée sur l'univers du film, on a très peu de lore à donner en pâture au spectateur. Non, juste une exploration fascinée. C'est une fable initiatique, ni plus ni moins. Une fable où tous ces espaces improbables, gigantesques, sont avant tout une allégorie de l'existence humaine et de ses étapes. Au milieu d'un monde qui reste envers et contre tout, parfois majestueux, oui, mais surtout incompréhensible. Quest, en quelque sorte, c'est donc un peu le versant romantique du Vertige des Backrooms, parce que même si le film perd aussi ses personnages au milieu de l'infini, son message est positif. Avec ses existences dramatiquement accélérées où chaque moment doit être vécu au maximum, c'est avant tout une invitation à habiter le présent. En voyant toutes ces statues brisées, on comprend vite que les dieux sont morts, et vivre, c'est ici et maintenant. C'est une sorte de Lovecraft inversé, quand y pense. Même les entités vengeresses se sont barrées. L'humain est abandonné à lui-même, et le frisson cosmique, c'est désormais celui du vide, de ce qui a été, et l'étrange beauté nostalgique qui s'en dégage. À ce niveau, j'ai un joli mot à mettre dans votre besace, si vous le connaissez pas déjà, c'est anémoïa. L'anémoïa, c'est la nostalgie pour un passé ou pour un lieu qu'on n'a jamais connu. C'est une sorte de creux en nous, un creux qui est naturellement là et qui fait appel à une chose qu'on a perdue, sans forcément savoir qu'on l'a perdue. Parce que l'anémoïa, en fait, c'est l'être humain qui est, par nature, déraciné. Et Quest capte ce sentiment parfaitement. L'humanité n'y a fondamentalement pas le temps, mais qu'elle vive 8 jours ou 8 siècles, c'est pareil, elle n'aura jamais assez de temps pour la trouver, cette chose perdue. Mais bon, ça n'empêche pas d'essayer. The Black Tower, réalisé par John Smith en 1987. John Smith, hormis être l'alter ego du docteur quand il est incognito, c'est aussi un cinéaste expérimental anglais, qui a toujours insufflé dans ses films une étrangeté teintée d'un humour so british. Et The Black Tower, qu'il a fait en 87, je l'ai découvert par hasard total à une projo, sans savoir ce que c'était, et le truc m'a littéralement happé. L'histoire, elle est simple. À Londres, un homme devient fasciné par une tour dont l'extrémité est tellement noire qu'on dirait qu'un trou est découpé dans le ciel. Et il commence à avoir la fâcheuse impression que la tour le suit, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. La tour est toujours là, l'observant, dominant le paysage comme une tête au-dessus d'une barrière. Forcément, la paranoïa du gars va crescendo, jusqu'à, vous verrez. Et The Black Tower, c'est une leçon, une pure leçon de minimalisme. Vous allez voir, c'est presque un euphémisme de dire ça, mais c'est vraiment une leçon de minimalisme. Pas de musique, des images brutes, normales, filmées au jour le jour en mode documentaire, où le simple fait de filmer la même chose sous différents angles devient hypnotisant. Un narrateur qui n'essaie pas de te faire ressentir quoi que ce soit, qui raconte tout avec une voix monocorde, qui rappelle d'ailleurs les fameux documents interdits dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne et qui arriveront 2 ans plus tard, en 89.
Ce que vous voyez est une caisse qui faisait partie des débris du naufrage.
I first noticed it in spring last year. It must have been early April.
Bref, juste une normalité tellement normale qu'elle en devient profondément suspecte, à mesure que ce bâtiment impose sa présence qui est à la fois angoissante et indifférente. Ce bâtiment, ça pourrait être n'importe quoi. Des bureaux, un data center, des habitations, un donjon. Cette tour, c'est tout, et surtout, cette tour, c'est rien. Une sorte de trou noir qui absorbe toute la lumière autour de lui. Un bloc de vide. Un mystère moche largué dans la banalité du quotidien. Un cauchemar fade de modernité. Niveau horreur architecturale, proche de tout ce que l'analogue horreur sur Internet en fera plus tard, ça se pose là quand même. Pour moi, The Black Tower est autant cousin de tout ça que La Maison des Feuilles. Et je serais vraiment pas étonné que dans les années qui viennent, grâce à toute la scène horror underground sur YouTube, le film ait une résurgence en popularité. Alors je vais pas vous en dire beaucoup plus sur The Black Tower, il s'expérimente beaucoup plus qu'il ne se raconte, mais en tout cas, pour peu qu'on fasse la démarche de rentrer dedans, il crée une atmosphère absolument dingue. Et dans une période où tout le monde a l'air de vouloir se démarquer en faisant des trucs de plus en plus spectaculaires, qui parfois sont réellement impressionnants, mais des trucs spectaculaires dont fondamentalement plus grand monde n'a grand chose à faire, tout le monde s'en désensibilise de plus en plus, bah voir The Black Tower rappelle à quel point on peut faire énormément avec rien. Mais littéralement rien. Du tout. Black Angel, réalisé par Roger Christian en 1980. Bon, là on sort un petit peu de la thématique des architectures impossibles, mais je vous glisse un petit Black Angel dans la liste parce que Black Angel c'est trop bien et puis voilà, ça fait plaisir. Roger Christian, le réalisateur, vous le connaissez sans le connaître. C'est le monsieur qui a créé le sabre laser dans le premier Star Wars. Enfin, il n'a pas créé l'effet spécial de la lame, il a créé l'accessoire, le pommeau que Luke tient. Voilà. Et le gars est ensuite devenu un réalisateur assez occupé. Avec, bon, quelques ratés au passage. C'est lui qui a fait Battlefield Earth. Voilà. Film de SF adapté d'un bouquin du fondateur de la Scientologie, qui est considéré comme l'un des plus mauvais films de tous les temps, pas moins. Et Roger Christian, qui est d'ailleurs au passage pas du tout scientologue, allez, ça sera sûrement le premier à l'admettre. Ce film, c'était avant tout le caprice de John Travolta. Bref, en 79, il se dégote un petit budget, part en Écosse avec une équipe minuscule, et il réalise Black Angel. L'histoire d'un chevalier qui revient des croisades, ne retrouve qu'un pays dévasté par une mystérieuse maladie, et alors qu'il se noie, il est sauvé par une jeune fille qui n'est de toute évidence pas du tout un fantôme, ou un ange, ou Galadriel enfant, je sais pas, et qui est retenue captive par une crapule nommée Black Angel. Et le chevalier, voulant remercier la jeune fille, va affronter l'ange noir. Voilà, simple, direct. Alors, ce que cherche le film avant tout, c'est la saveur du mythe. C'est revenir à la source de l'imagerie chevaleresque en lui donnant une atmosphère entêtante. Et à ce niveau, bon Dieu, avec trois bouts de ficelle, c'est réussi. Ce film, c'est une putain de masterclass en cadrage iconique. Et bon, bien sûr, c'est aussi bourré de symboles, l'ange noir qui est une incarnation de la peste, tout ça. En 80, le film est diffusé en première partie de la sortie de l'Empire Contre-Attaque. Niveau visibilité, c'est plutôt le bon plan. Et même si pas grand monde n'y fait attention au niveau grand public, Black Angel va avoir un impact énorme sur toute la fantasy qui suivra. Parce que bah, c'est un film à l'atmosphère hantée, ouais, mais c'est un film qui surtout sent la bourbe, la sueur, la brume et les feuilles mortes. Et ça, tellement de films vont s'en inspirer. Jusqu'à, bien sûr, la communauté de l'anneau qui, elle, sent vraiment les feuilles mortes. Get off the road! Quick! Rien que l'année suivante, en 81, Dragon Slayer et Excalibur sortent, qui tous les deux doivent énormément au visuel de Black Angel. Sur Excalibur, John Boorman a même débauché Trevor Jones, le compositeur de Black Angel, qui lui a signé un score, mais qui est quasi identique. Et quand je disais au début que Black Angel est un petit peu hors sujet par rapport à la thématique des espaces impossibles, c'était à moitié vrai. Bien sûr, on n'a pas de liminal horror ici, mais Black Angel capte le surnaturel dans un contexte qui met un point d'honneur à être cru dans sa manière de capter toutes ces architectures naturelles. C'est un univers dont tu peux presque renifler l'odeur et qui te donne envie de te laver les mains. Wait. Et là encore, on retrouve ce grand écart entre le familier et l'extraordinaire, au milieu de décors ambigus qui écrasent les personnages et gardent les séquelles du passé. Ça sonne familier ? Bref, que ce soit Black Angel ou les autres courts que je vous recommande ici, je dis pas bien sûr que Ken Parsons a vu ces films, mais c'est intéressant de voir comment n'importe quelle œuvre, aussi originale soit-elle, bat de toute manière un fer que d'autres ont déjà battu avant, chacune à sa manière. Une sorte de passage de torche tellement vaste, au milieu du réservoir infini d'images qui nous entoure, que très souvent, bah, il s'ignore. Et du coup, c'est toujours intéressant de reconstituer un bout de cet arbre généalogique. Un arbre qui, comme ses couloirs, ne finit jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très très vite pour la prochaine. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous mets le lien Tipeee dans la description. C'est une aide extrêmement précieuse pour continuer à construire et à développer cette chaîne. Un énorme, énorme merci à celles et ceux qui soutiennent déjà sur Tipeee. Et celles et ceux qui peuvent pas, bah, je vous aime quand même. Beko, à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao.